Bonjour, je voudrais vous lire aujourd'hui dans le premier, la présentation de Savitri, book, le livre 1, introduction et traduction de Satprem, c'est Savitri. Alors, Satprem met quelque chose dans sa présentation de Savitri. C'est-à-dire, il l'appelle le testament de Sri Aurobindo. Alors, je vais vous lire son introduction. Et pourtant, c'est pour la joie et non la douleur que cette terre fut faite. Sri Aurobindo, Savitri. Savitri, le testament de Sri Aurobindo. Toujours, il y eut ce cri de l'amour des fées devant la mort. Ce nom de feu devant le nom de pierre. Ce quelque chose dans l'homme, avec un grand H, qui n'accepte pas. Et c'est toujours l'amour qui a fait face à cette inexorable négation. C'est devant cela que la blessure est la plus intense. Et la vieille blessure devient comme la blessure même de la terre. Les pleurs n'ont jamais servi, mais quelquefois une sublime volonté saisit un cœur. Ce ne sont non plus beaux mythes et ils datent d'avant les ruines de Thèbes, lorsqu'Isis, indomptablement descendait chez les seigneurs de la nécropole, rapiéçait le corps démembré de celui qu'elle aimait, Osiris. Toujours, il y a eu cette volonté de vaincre la mort, cet amour plus fort que la mort. Nous disons des mythes et pourtant dans ces rêves inexistants se cachent les plus puissants ressorts de la race humaine et sa prescience d'un pouvoir à venir. De l'union posthume d'Isis et d'Osiris est né celui qu'on appelait l'enfant, avec un grand E. Horus, l'ancêtre des pharaons, le faucon d'or. Quel est ce mystérieux enfant né d'outre-tombe, de la mort vaincue? Plus tard, il y eut Déméter, la grande déesse de la terre, épouse de Zeus, dont la fille Corée fut enlevée par Pluton, le seigneur infernal. Ce fut la naissance des mystères de l'Isis, qui répétait l'union du ciel et de cette terre mortelle, donnant naissance à l'enfant divin. Cet enfant d'outre-terre plus fort que la mort, notre âme, qui n'a pas encore conquis son pouvoir sur la mort. Déjà le mythe s'élargit, mais l'enfant, notre enfant, reste toujours outre-terre. Puis, il y eut l'émouvante légende d'Orphée, le chantre mythique, qui descendit aux enfers pour arracher Eurydice, bien-aimée à la vieille mort. Et ses chants, son amour, conquirent même le cœur de pierre de Hadès, l'infernal. Il retrouva son Eurydice au bref moment. Désolé de cette deuxième mort, Orphée se retire seul en compagnie des animaux sauvages qui le comprennent mieux peut-être. Mais l'homme essaye toujours. C'est ce qui fait le sublime parmi toutes les espèces sauvages. Avant même Eleusis, avant même Ménès, le premier pharaon d'Égypte près d'Abydos, ou son contemporain vers l'an 3000 avant notre ère des morts consentants, il y avait la légende de Savitri, dont l'amour arrache à la mort son épée, son époux bien-aimé Satyavan. C'est dans le Mahabharata que l'on retrouve cette légende, et c'est de là que Sri Aurobindo a tiré son épopée prodigieuse de quelque 23 813 vers. Mais en lui donnant un sens plus vaste, cosmique, la terre arrachée à la mort. Car cette mort, elle est toujours chez nous, mais peut-être pas pour toujours. Je ne grimpe pas à ton jour perpétuel, de même que j'ai rejeté ta nuit éternelle. La terre est le lieu choisi des âmes puissantes. La terre est l'héroïque champ de bataille de l'esprit. Tes servitudes sur la terre, ô roi, sont plus grandes que toutes les glorieuses libertés du ciel. En moi, l'esprit de l'amour immortel ouvre ses bras pour embrasser la race humaine. Trop lointains sont tes cieux pour les hommes qui souffrent. Imparfaite est la joie que tous ne partagent pas. Oh, se répandre, oh, encercler et saisir plus de cœur jusqu'à ce que l'amour en nous emplisse ton monde. N'y a-t-il pas encore 1 million de batailles à livrer? N'y a-t-il pas encore 1 million de champs à tisser? Je sais que je peux soulever l'âme de l'homme jusqu'à Dieu. Je sais qu'il peut faire descendre l'immortel, ici. Je ne sacrifie pas la terre à des mondes plus heureux. Sri Aurobindo. Car il, c'est Satyavan, il peut, c'est l'âme de la terre tombée dans l'ignorance et dans le règne de la mort. C'est cette âme de la terre que Savitri, fille du soleil, vient délivrer. Savitri, la mère des mondes, dans un corps humain, épouse de Satyavan. Le premier chant de l'épopée de Sri Aurobindo s'achève sur ces vers. C'était le jour où Satyavan devait mourir. Le destin le voulait ainsi. Notre terre va-t-elle mourir encore une fois? Sri Aurobindo avait commencé Savitri dès son retour en Inde, avant le début du siècle et en 1950, quelques mois avant son départ, il révisait encore le livre du destin. Cette épopée, c'est le testament de Sri Aurobindo. Cette exploration, sa question devant cette race humaine, inguérissable, semble-t-il, et pourtant l'homme peut. Mais il ne sait pas qu'il peut. C'est ça, sa grande et colossale ignorance. Il ne connaît pas son propre moyen. Lui, fils de l'immortel. Et s'il est le fils de l'immortel, il doit avoir, il a tous les moyens de l'immortel. Il s'est laissé enchaîner par des faux savoirs, des faux saluts, et la mort règne. Naturellement, parce que nous vivons d'elle et de ses faux moyens. Savitri vient pour briser la loi de fer. Je ne m'incline pas devant toi, énorme masque de mort. Mensonge noir de la nuit devant l'âme intimidée des hommes. Je suis immortel dans ma mortalité. Je foule cette loi avec des pieds vivants. Et c'est le thème constant de Savitri. Tu es, et qui es-tu? Qui choisis-tu? Et tu peux? Un esprit qui est personne est innombrable. La seule personne mystique, infinie de son propre monde, il multiplie sa myriade de personnalités. Pose sur tous. Ses corps sont sceaux de divinité et en chacun siège immortel et unique. Savitri. Un extrait de Savitri. Sri Aurobindo. Et encore, une dette mutuelle lie l'homme au suprême. Nous devons revêtir sa nature, de même qu'il a revêtu la nôtre. Nous sommes les fils de Dieu, et tels que lui, nous devons être. Notre vie est un paradoxe avec Dieu pour clé. Savitri Sri Aurobindo. Extrait. Mais comment briser cette loi de fer? C'est la fabuleuse exploration du roi, père de Savitri, le pionnier de l'espèce. Aucune épopée au monde n'a dit tant de secrets avec tant de beauté. C'est l'expérience, ce sont les expériences mêmes de Sri Aurobindo sous un couvert poétique. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la poésie, s'exclamait Mère. C'est une description exacte, pas à pas, paragraphe par paragraphe, page par page. Les Védas, revenus à l'heure de l'obscurité finale et sa découverte centrale, son exploration centrale et, pas à pas, peut ramasser, se ramasser en un seul vers de Savitri que l'on peut lire avec énormément parce que nous sommes tout étonnement, pardon, que l'on peut lire avec étonnement parce que nous sommes toujours allés à l'autre bout des choses. Faire de l'abîme une route pour la descente du ciel. Savitri, c'est notre paradoxe. Faire de l'abîme une route pour la descente du ciel. Cette phrase est tirée de Savitri. Elle est très symbolique. C'est notre paradoxe. C'est notre paradoxe divin sous notre manteau de ténèbres. Si nous étions issus des ténèbres, il n'y aurait plus que des ténèbres pour nous à jamais. Mais nous ne sommes jamais allés là. Regardez là. Le remède est au centre du mal, disait Mère. Seulement, c'est plus difficile. C'est notre défi humain. La vie que vous menez cache la lumière que vous êtes. Vous étiez fait de la substance de l'immortel. Vos actes peuvent être de rapides foulées révélatrices. Votre vie, un moule changeable pour les dieux qui grandissent. Un voyant, un puissant créateur est dedans. Auteur des grandes métamorphoses terrestres, c'est à vous qu'il est donné de traverser les dangereux espaces de l'âme et d'affronter l'infini de sa demeure de chair. Et que cette vie devienne les millions de corps de l'un. Cette route, à travers l'abîme, Sri Aurobindo et la mer l'ont taillée dans leur propre corps. En Savitri, on peut reconnaître Mère. Alors, par un tunnel creusé dans le dernier roc, elle est sortie, là où brillait un soleil immortel. Savitri. Ce sont nos racines mêmes, ténébreuses, inconscientes, endormies, qui contiennent l'arbre plein de notre évolution nouvelle. L'autre bout de cette noire enveloppe, entourée de toutes parts, en bas comme en haut, d'un soleil immortel. Il tirait les énergies qui transmueront un âge, dit le roi dans Savitri. Et tous ces millions d'années qui nous semblent si longues, seuls des commencements ont lieu ici. Ce que maintenant nous voyons est une ombre de ce qui doit venir. Fin du testament de Sri Aurobindo. C'est une entrée en matière du livre 1, traduit par Satprem, Savitri. Alors, je vais poursuivre ma lecture avec la connaissance secrète. Je continue. « Mais tout est derrière un écran subliminal, mystique. Il faut le cœur intuitif, le tournant intérieur. Il faut le pouvoir d'un regard spirituel. Sinon, pour le bref aperçu éphémère de notre mental de veille, un voyage sans but semble être notre douteuse course. Réglée par notre chance ou hasardée par quelque volonté ou une nécessité sans but ni cause, contrainte d'héberger et d'être malgré elle. Dans ce milieu épais où rien n'est sûr ni pur, notre être même nous semble contestable. Notre vie, une vague tentative et l'âme, une lumière clignotante dans un monde étrange et ignorant. La Terre, un brutal accident mécanique. Un filet de mort où, par hasard, nous vivons. Tout ce que nous avons appris semble une dubitable devinette. Les accomplissements, un passage ou une phase, dont le but éloigné se cache à nos yeux. Un événement chanceux ou une fatalité fortuite. Sortis de l'inconnu, nous allons à l'inconnu. À jamais ici, notre brève existence est cernée d'ombres grises et de questions sans réponse. Les mystères sans signe du noir inconscient résistent, non résolus, derrière la ligne du départ. Du destin. Une aspiration dans l'abîme de la nuit, semence d'un corps périssable et d'une pénombre mentale. Lève solitaire sa langue de feu conscient. Vers une lumière impérissable, à jamais perdue. Seule, elle entend, pour seul écho de son appel, l'obscure réponse du cœur ignorant des hommes et affronte, sans comprendre pourquoi elle est venue, ni pour quelle raison, et la souffrance ici. Le consentement de Dieu au paradoxe de la vie et l'énigme de la naissance de l'immortel dans le temps. Sur le chemin serpentant des âges, blotti dans la noirceur de sa course aveugle, la déesse Terre peine à travers les sables du temps. Un être attend en elle qu'elle espère connaître. Un vocable parle à son cœur qu'elle ne peut pas entendre. Un destin la contraint, dont elle ne peut pas voir la forme. Dans son orbite inconsciente, à travers le vide, elle lutte pour sortir de son abîme insensé. Une vie périlleuse est son gain. Une joie assaillie, une pensée qui peut concevoir, mais ne sait trop rien, se lève lentement en elle et crée. L'idée, la parole, une étiquette plus qu'elle n'éclaire, un bonheur tremblant qui est si loin d'une félicité, assiège partout cette beauté qui doit mourir. Angoissée par la douleur qui traîne et tire à ses pieds, consciente des grandeurs qu'elle n'a pas encore conquises, elle nourrit sans cesse, en son sein sans sommeil, une irrésistible besoin qui la laisse sans trêve ni paix. Ignorante, hélas et invisible, elle cherche par la guerre de l'âme et par ses déchirements la pure perfection que sa nature souillée réclame. Un souffle de Dieu sur sa pierre et sa boue. Elle a soif d'une foi qui peut survivre à la défaite, soif de la sécurité, d'un amour qui ne connaît pas la mort, et l'ensoleillement d'une vérité pour toujours sûre. Une lumière grandit en elle, elle prend une voix, elle apprend à lire son état et l'acte qu'elle accomplit. Mais la seule vérité dont elle a besoin échappe de ses mains. Elle-même et tout ce dont elle est, le signe, un sourd murmure porte ses pas, dont elle sent la force, mais non le sens. Quelle rare prémonition viennent la guider, d'immenses éblouissements divinateurs déchirent son cerveau. Et parfois, en ces heures de rêve et de songe, la vérité qui lui manquait la regarde, comme de très loin et pourtant dans son âme. Un changement approche, mais fuit ses conjonctures. Et toujours reculer l'oblige à tenter, à espérer encore. Et tout de même semble trop grand pour que des espoirs mortels en aient l'audace. Une vision des pouvoirs sublimes vient à sa rencontre, qui l'attire telle de formidables frères perdus et s'approche avec des grands yeux de lumière exilés. Alors, elle se sent tirée vers tout ce qu'elle n'est pas. Elle tend les bras vers tout ce qui jamais ne fut elle, ne fut à elle. Ouvrant les bras au vide inconscient, passionnellement, elle prit l'invisible forme des dieux, suppliant la destinée muette et le labeur du temps de lui donner ce dont elle a le plus besoin, ce qui dépasse le plus son attente. Un mental qui n'est pas visité par les miroitements de l'illusion, une volonté qui manifeste la déité de l'âme, une force qui n'est point contrainte de trébucher dans son élan, une joie qui ne porte pas la douleur dans son ombre. De cela, elle a soif et sent que c'est son destin. Elle revendique les privilèges des cieux comme son droit même. Juste est sa demande. Tous les dieux en témoignent et approuvent. Clair est son droit, dans une lumière plus grande que notre raison. Nos intuitions sont le titre de notre propriété. Notre âme accepte ce que refusent nos pensées aveugles. Les chimères ailées de la terre sont les coursiers de la vérité du ciel. L'impossible est le signe divin des choses à naître. Mais rares sont ceux qui peuvent voir outre l'état présent et faire un bond par-dessus l'épaisse et des sens, tout ce qui filtre sur la terre et tout ce qui est au-delà fait partie d'un illimitable plan que l'un garde dans son cœur et seul connaît. Alors je termine aujourd'hui par cette phrase très importante que l'un garde dans son cœur et seul connaît. Dans cet un, il y a Sri Aurobindo et Mère qui gardent dans leur cœur et que seuls connaissent l'inlimitable plan qu'ils nous préparent dans notre futur. Merci, Sri Aurobindo. Merci, Mère. Merci à la connaissance secrète de me révéler votre connaissance à cette petite Ganga Lakshmi.